Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand et réalisée avec la complicité de Xavier Lecomte, que je remercie et salue très amicalement. Cette émission préenregistrée est consacrée au romancier et nouvelliste Fabrice Pateau et à son nouveau recueil de nouvelles et de textes autobiographiques, Les Beaux Jours, qui vient de paraître aux éditions Héliopole. Alors Fabrice Pateau est l'auteur de 5 romans et de 3 recueils de nouvelles. L'un d'entre eux, qui s'intitule « Trouvé dans une poche », qui a été publié aux éditions Buchet-Chastel, a notamment obtenu en 2005 le prix de la nouvelle de l'Académie française. L'ouvrage dont il va être question aujourd'hui a quant à lui été présélectionné pour le prix Bocas de la nouvelle. Ce livre est en outre illustré par des dessins de l'auteur pour qui le croquis préparatoire est une manière de prendre note et de faire route vers l'imaginaire. Le dessin, depuis le début, est destiné à l'écriture. Ce n'est pas qu'il tienne une place subalterne, c'est plutôt qu'il est voué à une transformation, même quand l'écriture vient en premier. Ce qui est rare, peut-on lire en préambule. Mais je vous laisse faire connaissance avec l'univers romanesque de Fabrice Pateau, qui, j'en suis sûre, parlera à toutes celles et ceux qui apprécient l'art de la nouvelle. Bonne écoute à tous. Fabrice Pateau, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici chez vous dans votre atelier d'écriture. Enfin, c'est un lieu où vous travaillez et nous allons parler des beaux jours, les beaux jours qui viennent de paraître aux éditions Héliopole. C'est un recueil et de textes autobiographiques et de nouvelles. Alors, les beaux jours, c'est... Alors, en couverture, je dois bien préciser, Fabrice Pateau, c'est qu'il y a une reproduction de Paris, des quais de Seine, la nuit. Et ça m'amène un peu à ma première question, parce que dans votre titre, il y a le mot « jour », et en couverture, il y a « la nuit ». Donc, moi, j'ai pensé en vous lisant à des nocturnes. Vous savez, les nocturnes en musique, c'est des petits morceaux de piano assez courts, assez mélancoliques. Pense aux nocturnes de Chopin. Puis je pense aussi à « Nocturne indien », qui était un livre d'Antonio Tabucchi, je crois. Donc il y a un côté, c'était aussi des textes courts où le narrateur d'ailleurs partait à la recherche, je crois, d'un ami disparu en Inde. Donc il y a ce côté un peu nocturne, je trouve, dans votre ouvrage, Fabrice Pateau.
Oui, alors en fait, dans la partie autobiographique du livre, il y a des choses qui se passent la nuit. Donc on peut dire oui que c'est nocturne. En ce sens-là, il s'agit en fait de fragments assez courts qui reviennent sur des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence, essentiellement sur deux lieux où j'ai habité, premièrement à Neuilly et ensuite dans l'île Saint-Louis. Donc en fait, ce qui a été choisi pour la couverture, c'est une vue de Paris où on voit la Seine. Mmh. Voilà, c'est ça qui a motivé la couverture.
Le choix. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Héliopole, un recueil de textes courts qui est assez consistant quand même, il y a beaucoup de matière, donc en deux parties, la partie autobiographique et puis la partie fiction. Alors votre première phrase, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très très proustienne.
Oui, sûrement.
Donc je vais la lire. « Le temps que je m'exerce à la contemplation des mots dont je voudrais qu'ils soient miens, non par paresse, c'est bien trop tôt, mais par un mélange difficile à défaire de vanité et de faiblesse, voilà que d'autres les devancent en contrebande, exact, ajusté, et je le sais sans attendre, aussi réfléchi que dévergondé. Et vous poursuivez, ils viennent de l'intérieur, de la chambre, de mon lit, à une place, de sous l'oreiller, et profitent de la lumière blonde qui filtre à travers les persiennes pour lui ravir l'or qui de l'autre côté baigne la rue de long pont tout entière. » Alors c'est vrai que ces deux phrases en apnée, on a l'impression que ça nous plonge d'emblée, enfin je ne sais pas si c'est voulu ou pas, dans un autre espace-temps qui est celui de votre enfance. Est-ce que ce sont des phrases intentionnelles? Est-ce qu'elles ont été retravaillées? Ou est-ce qu'elles vous sont venues spontanément sous la plume?
Non, elles ne sont pas venues spontanément du tout. Elles ont été beaucoup travaillées. En fait, les textes qui sont... recueillis ici ont d'abord été publiés sous une forme un peu différente, même assez différente dans certains cas, dans une revue suisse qui s'appelle Le Passe-Muraille. Et puis, je les ai collationnés. L'idée, c'était de faire une espèce de diptyque, en fait, où le texte proprement autobiographique et le texte fictionnel sont en regard. Et puis, il y avait beaucoup de références à l'intérieur du texte autobiographique aux textes de fiction eux-mêmes qui, en fait, ont été éliminés. Donc, j'ai travaillé avec l'éditrice, avec Zoé Leroy, sur cette question. On les a éliminés et je pense que c'était une bonne décision. Ça rend la lecture de la partie autobiographique beaucoup plus souple. Et il y a un aspect proustien, parce que Proust est un auteur que j'aime beaucoup, qui est probablement mon auteur préféré, que j'ai énormément lu. Évidemment, il y a plein d'autres manières de concevoir l'autobiographie que de manière proustienne, mais là, c'est vraiment en particulier sur le souvenir, parfois à deux étages. Le fait qu'on a un souvenir, le fait qu'on a des souvenirs de souvenirs, que le souvenir se prend lui-même comme objet, où on croit se souvenir de choses, on se rappelle de souvenirs qu'on a eus à un certain moment donné, qu'on a perdu, qu'on retrouve. Donc il y a cet élément proustien, très certainement dans la partie autobiographique, mais parfois aussi dans les nouvelles. Oui. Mmh. Oui.
Ça se sent aussi à cette souvenir, là on est presque dans un duplex, hein, donc ça serait presque des souvenirs en duplex, en duo, en dualité, qui se répondent dans tous les cas. Et puis il y a la lumière, et que vous, tout à l'heure, dans l'extrait que j'ai lu, je crois, vous parlez de la lumière blonde, je n'en suis pas sûre, mais à un moment donné, si, la lumière blonde qui filtre à travers les persiennes. Donc je parlais tout à l'heure de cette ambiance nocturne, mais il y a surtout aussi ce jeu d'ombre et de lumière. Et c'est vrai que vous parlez à un moment donné de la lumière faite pour les mots. Et ça, j'ai bien aimé cette expression. On sent qu'il y a des variations de lumière, des nuances, et la phrase est un peu une phrase comme un nuancier.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris assez lentement. Donc parfois, ça peut commencer par un dessin, puisqu'il y a des dessins aussi dans le livre. J'ai une idée, je la note sous forme de dessin. Après, j'écris à partir du dessin, puis... Après, je reviens sur le dessin, je le modifie. Donc, il y a un va-et-vient, en fait, entre le dessin et l'écriture. Et puis, au bout d'un moment, l'écriture devient autonome. Et donc, voilà, j'ai plus besoin du dessin, en quelque sorte. Et l'écriture devient autonome et part toute seule. Mais c'est, en général, oui, assez long. Il y a souvent des phrases emboîtées, avec des clauses assez longues. Donc, parfois, je les coupe, parfois, je les laisse longues. Après, c'est une question de respiration. C'est une question de musique, en fait.
Il y a des incises.
Il y a beaucoup d'incises. Donc parfois, il faut reprendre sa respiration pour lire la phrase, pour lire la phrase en entier. Parfois, je les coupe. Je sais pas, ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'équilibre général du texte aussi.
Alors, ce que j'ai remarqué, oui, donc ce que j'ai pas dit, c'est que là, en fait, les dessins sont plutôt dans la première partie autobiographique.
Oui, uniquement dans la première partie. Ah. Oui. Il n'y a pas de dessin dans la partie nouvelle.
Voilà. Donc, on dirait presque les dessins s'arrêtent là où commence la fiction. Parce que les dessins accompagnent la première partie autobiographique. Et dès qu'il y a la fiction qui arrive, l'imaginaire, des mots prennent le relais.
Oui, alors dans la réalité, en fait, ces nouvelles ont aussi des illustrations qu'on n'a pas du tout qu'on n'a pas utilisées pour les livres, mais c'est vrai qu'il y a une espèce, il y a une sorte de mouvement, en fait, peut-être dans le livre, qui part de la partie autobiographique avec ses dessins et qui va vers une partie fictionnelle sans dessin. Après, ce qui est proprement de l'ordre de la fiction et ce qui est proprement de l'ordre de l'autobiographie, en fait, c'est assez poreux. Hein. C'est d'un genre de texte à un autre. Et, oui,
Est-ce qu'on peut dire que d'ailleurs certains textes autobiographiques ont été écrits comme des nouvelles?
Il y a des éléments autobiographiques, certainement. Après, je m'en rends pas compte. Ce qui a été écrit là, en ce qui concerne l'autobiographie, est consciemment, évidemment, autobiographique. Dans les nouvelles, il y a probablement des choses, oui, mais là, bon,
ne serait-ce que pour le titre. Sidonie et l'araignée, par exemple.
Oui, ça, c'est dans la partie vraiment, vraiment autobiographique. Oui, Sidonie était le prénom de ma grand-mère. Donc là, oui, on est tout à fait dans, le, donc ça, oui, dans la note autobiographique. Oui, tout à fait.
Donc ça pourrait très bien être le titre d'une nouvelle. Pourquoi pas ?
À la limite, oui, j'aurais pu prendre ce texte et le mettre du côté des nouvelles. Après, dans les nouvelles, il y a aussi des textes qui sont écrits à la première personne. On oscille en fait de textes qui sont écrits à la première personne et des textes qui sont écrits plus de l'extérieur, où on parle d'un personnage qui a un nom ou pas, mais qui n'est pas le narrateur. Mais en fait, c'est oui, ça peut se recombiner si on veut différemment, oui.
Et puis il y a, c'est vrai parce qu'il y a toujours une part de non-dit. Donc finalement, même dans vos textes autobiographiques, vous dites pas tout, Fabrice Patot. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petits points de suspension. C'est à nous de faire les raccords. Vous faites des clins d'œil même à vous-même. C'est pas strictement autobiographique.
Non, non, le but de l'autobiographie, je crois, c'est pas de dire tout. De toute façon, dire tout, ça serait interminable. Enfin, après, il y a un choix qui se fait. D'abord, il y a des choses qu'on oublie, des choses dont on oublie qu'on les a oubliées, puis qui reviennent de manière inopinée. Donc, l'idée de l'autobiographie, c'est pas de tout dire. Il y a des choses, évidemment, qui sont sélectionnées, des choses qui ont plus de relief que d'autres, des choses qui comptent, des choses qui n'ont pas d'intérêt, des choses voilà. Donc il y a une espèce de, je pense, de sélection naturelle. Et puis après il y a le mouvement de l'écriture, hein, c'est-à-dire que il y a des choses dont on se souvient, on les écrit et c'est absolument affreux, pas parce que le souvenir est affreux, mais parce que bon, ça passe pas dans l'écriture. Donc il faut que ça ait une voix. C'est un peu comme un texte de théâtre, en fait, je pense, où l'acteur doit assimiler un texte, le faire passer par son propre corps et le redonner. Il y a une espèce d'alchimie qui doit se produire, ou de transmutation. Et dans le texte autobiographique, je pense qu'il y a, oui, il y a quelque chose de cette nature-là. Il y a des choses qui viennent naturellement parce que l'écriture les fait venir naturellement. Et puis il y a des choses qui résistent ou qui dites n'ont absolument aucun intérêt ou sont plates ou sont... Oui.
C'est un travail sur la mémoire de la phrase, sur la mémoire des descriptions et surtout sur l'insularité. L'insularité, double insularité, insularité à l'intérieur même de Paris, puisque vous nous parlez, l'action des textes autobiographiques se déroule dans l'île Saint-Louis, hein, oui. Sur l'île Saint-Louis. Ouais. Et puis l'insularité temporelle, puisque à l'intérieur de cette île Saint-Louis, de votre enfance, il y a toujours la chambre. J'ai remarqué une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf, mais il y a toujours ce refuge.
Oui, oui, les chambres sont importantes. En fait, il y en a deux essentiellement dans la partie autobiographique. Il y a la chambre de Neuilly et puis la chambre de l'île Saint-Louis. Et effectivement, ce sont des lieux. La chambre, c'est un lieu personnel, évidemment, dans lequel on peut se cacher, on peut cacher des choses, on peut cacher ce qu'on y fait, on peut fermer sa porte, on peut la laisser entrouverte si on a envie que des choses soient vues ou entrevues. Donc il y a effectivement une insularité ou de la chambre qui fait que dans un texte autobiographique, c'est quelque chose évidemment qui a un précédence, enfin qui est un aspect tout à fait important. Et oui, il y a beaucoup en fait dans la partie autobiographique de voyages immobiles ou de voyages intérieurs, de voyages dans la chambre. Mmh. On circule beaucoup dans des espaces clos en fait dans la partie autobiographique. Mmh. Oui. Moins dans la partie nouvelle. Au contraire, il y a beaucoup de nouvelles qui se passent loin, à l'étranger par rapport à la France. Mais la partie autobiographique est vraiment se déroule. Mmh. De manière plus ou moins chronologique dans des espaces clos, oui. Pratiquement toujours, oui.
Et puis c'est un peu une chambre avec vue ou sans vue, parce qu'il décuple l'imaginaire. Est-ce que écrire, c'est en partie être insulaire? Enfin, on sent quand même cette insularité parisienne, pas du tout une insularité sauvage, parisienne, mais on sent que ça débouche sur la singularité. C'est la construction de votre identité, Fabrice Patot, de votre identité d'écrivain, de la nécessité d'écrire, du fait de se sentir un peu dans les marges.
Oui, c'est, en fait, c'est une insularité citadine. Il y a peu de... Dans la partie autobiographique, il n'y a absolument rien qui se passe dans la nature, soit à la campagne, soit au bord de la mer, soit à la montagne. Enfin, la nature n'est absolument pas présente. C'est effectivement une autobiographie citadine. Il y a des rues, il y a des voitures, il y a des villes, il y a des trajets en voiture dans la ville.
Qui redessine la ville,
absolument, qui fait une espèce comme ça de labyrinthe, et au bout d'un moment, on revient toujours, oui, à l'appartement ou à la chambre. Donc, c'est des trajets, parfois des périples assez compliqués, mais on vient toujours au point de départ. Il y a toujours un cercle, en fait, d'une certaine manière, qui se dessine. Oui.
Et puis, c'est aussi pas forcément, parce qu'on dit El Saint-Louis, tout de suite, c'est un endroit privilégié, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi des petits bouts de vie. On sent que votre mère refait sa vie plusieurs fois, qu'elle assemble des petits bouts d'espace. Et même si le cadre est très beau, la chambre est réduite. C'est un petit réduit où vous êtes enfant, d'ailleurs. Mmh. Et il faut... J'ai bien aimé cette idée de reconstruire sa vie dans... ce qu'on a tous fait, mais dans des petits bouts d'appart, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, l'endroit privé peut être minuscule. Après, l'île Saint-Louis, en fait, là, c'est à la fin des années 60, puisqu'en fait, on y habitait en 68. Mais à l'époque, c'était un quartier privilégié d'une certaine manière, mais pas comme maintenant, je dirais. Il y avait encore des personnages assez hauts en couleur dans l'île Saint-Louis. Il y avait des concierges invraisemblables, il y avait une marchande de journaux avec une boutique absolument remplie de chats. Il y avait encore des gens qui habitaient là depuis longtemps, qui étaient en loyer de 48, comme ça. Il y avait toute une population qui a complètement changé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'île Saint-Louis a été achetée par des gens qui n'habitent pas l'île Saint-Louis. Donc c'est complètement... À l'époque, il y avait vraiment des autochtones. Et c'était un sentiment assez curieux parce qu'on n'était ni sur la rive droite, ni sur la rive gauche. Ni, bien sûr, sur l'île de la Cité qui, avec la majesté de Notre-Dame. Donc on est vraiment... Il y avait un sentiment doublement insulaire, je dirais insulaire parce qu'on est sur une île. Mais en plus, une île qui, à l'époque, n'était pas particulièrement visité par les touristes, à la différence de la Cité à cause de Notre-Dame, bien sûr. Donc il y avait une espèce de bizarrerie de vivre dans cet endroit, ce qui fait que quand on passait le pont, soit pour aller sur la rive gauche, soit pour aller sur la rive droite, soit pour aller à l'île de la Cité, qui était reliée à l'île Saint-Louis par une passerelle piétonne, on avait vraiment... On sortait dans Paris, ou on rentrait de Paris, donc on était dans Paris, mais un peu ailleurs. Ouais, il y avait vraiment une espèce de particularité, ni rive droite, ni rive gauche.
Et puis une sorte de, oui, je parlais de singularité, alors, votre, j'allais dire, autre figure tutélaire de ce recueil, c'est celui qui d'ailleurs a refusé Proust, c'est Gide.
Oui, l'erreur de Gide, oui. Ah. L'affreux Gide.
Alors Gide aussi, alors lui par contre c'est la phrase courte quand même d'après mon souvenir, et puis vous parlez aussi de Delarbeau, qui est un écrivain qui mériterait d'être redécouvert actuellement, et... Troisième présence, alors ça c'est la scène, c'est Apollinaire. Vous aimez beaucoup Guillaume, oui, Apollinaire.
C'est des auteurs que j'ai beaucoup lus quand j'étais adolescent ou jeune adolescent. Oui, notamment Gide. Et à l'époque où je les lisais, c'est pas des auteurs très prisés. Gide, évidemment, avait été un auteur sulfureux pour les raisons... Conseil, il avait été mis à l'index par le Vatican. Enfin, il a eu les deux choses. Il a eu ce qu'il y a de mieux. Il a eu le Nobel et il l'a mis à l'index. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment, on est au top, si je puis dire. Mais à l'époque où je les lisais au lycée, dans ces années-là, la fin des années 60, début des années 70, c'est pas des auteurs que les lycéens lisaient beaucoup. On lisait plus tellement Larbeau, Gide était démodé, d'une certaine manière. Bon, Proust, évidemment, c'est un cas un peu à part. Et c'est des auteurs, non, qu'on considérait pas comme des auteurs importants. C'est des grands stylistes, hein. Moi je trouve Gide est un styliste extraordinaire, Larbeau aussi, mais on les considérait comme des auteurs légers, un peu snob, un peu léger, un peu, ouais. Bon, on pouvait s'en passer, quoi. C'était Oui.
Alors, Gide, c'est la symphonie pastorale avec, qui a donné un très beau film avec Pierre Blanchard, d'ailleurs, je crois, et Michel Morgan, je crois, je suis pas sûre.
Ouais, c'est Michel
Morgan. Ouais, je crois. Et vous parlez du voyage du rien. Alors, moi, je l'ai pas lu, et surtout de Palude. Et lui, Gide présente d'ailleurs ce livre, Palude, je crois, comme une stature du Paris littéraire, qu'il qualifiait d'ailleurs de sottie. Mais sottie, ça pourrait aussi vous convenir.
Oui, alors Palude est un livre assez curieux. C'est un très beau livre. Je trouve que c'est un des livres les plus réussis de Gide. C'est un livre très fin. Et c'est un livre sur le livre, en fait, puisque ce que raconte Palude, l'histoire d'un type qui écrit Palude. Mmh. Donc c'est un livre, il y a un effet de miroir, de mise en abîme, de quête littéraire. Il y a beaucoup d'ironie dans Palude. C'est un très beau texte qui est écrit dans un français très pur, comme ça, très, très épuré, à la fois très simple, beaucoup plus simple que le français qu'utilise Gide dans les romans, dans les caves du Vatican, qui sont peut-être moins. C'était pas un romancier, Gide. Donc, je trouve dans ses textes courts, notamment Le Voyage d'Urien, qui est vraiment un texte de jeunesse, un texte de voyage un peu fantastique, comme ça. Dans ces textes-là, qui sont en fait des textes, d'itinéraire politique, poétique, de voyage intérieur. Je pense que c'est les choses que Gide a le plus, moi je trouve le mieux réussi, où c'est le plus achevé. Mais dans les années 60-70, on lisait peut-être Les Nourritures Terrestres parce qu'il y avait, c'était le succès à scandale. Ça restait quand même ça. Mais bon, donc j'ai beaucoup lu ces auteurs. Genet aussi, qui était peut-être plus.
Encore plus scandaleux dans un sens.
Oui. Encore plus scandaleux, non? Et puis la langue de Genet est extraordinaire. C'est une langue en fait extrêmement classique, extrêmement châtiée. Moi je trouve que c'est vraiment un des écrivains les plus remarquables de la littérature française du XXe siècle. Genet, c'est vraiment un très très grand auteur et qui revient en fait, curieusement peut-être, au vu de l'époque, au vu du goût de l'époque, à une langue très classique, très châtiée, qui peut presque faire penser par moments à des Chateaubriand, des imparfaits du subjonctif. Il y a des phrases extrêmement, extrêmement longues, évidemment avec des sujets beaucoup plus intimes et beaucoup plus durs que ce qui avait été traité dans la littérature, en tout cas en surface dans la littérature classique. Mais c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, oui. Oui.
Et on sent que c'est, on sent aussi tous ces auteurs proviennent de la bibliothèque de votre mère, en fait. Vous découvrez en catimini certains livres comme ça.
Moi, je pense c'est faussement en catimini parce qu'ils étaient posés là pour que je les lise. Donc, mais effectivement, il n'y avait pas dans la bibliothèque de ma mère, il n'y avait pas les grands classiques de la littérature française. Il n'y avait pas de Saint-Simon, il n'y avait pas de Chateaubriand. Il y avait vraiment des auteurs plus du XXe siècle et des auteurs, sulfureux ou qui avaient eu avec la censure, notamment Gide et Genet, mais il y avait aussi, il y avait beaucoup de Malaparte, du Joyce, des auteurs comme ça. Donc ils étaient posés là, ils étaient sur le rayonnage de la bibliothèque. Et donc, ça clignotait, j'avais qu'à les prendre, et puis il fallait que, voilà.
Et vous avez fait les bouquinistes, vous avez des souvenirs des bouquinistes, puisque vous étiez finalement sur les quais de Seine.
Oui, tout à fait, il y avait tous les bouquinistes du quai de l'Hôtel de Ville, tout ce qui allait du rive droit du côté de l'Hôtel de Ville, et puis du côté boulevard Saint-Michel. Oui, évidemment, il y avait tous ces bouquinistes, oui. On achetait des livres, là, oui.
Mais on sent les livres, là, ils sont à l'intérieur. En fait, vous décrivez tout ce qui est à l'intérieur, y compris d'ailleurs, alors l'heure du goûter, alors là, on retrouve l'univers de Proust.
Et là, c'est vraiment l'enfance, oui. Ah. Oui.
Et vous parlez des géniflexions de sucre, ça j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, c'est ce temps arrêté, ce temps où...
Oui, c'est un temps figé. C'est un temps figé, comme ça, avec des images extrêmement précises, effectivement, des brioches, de l'heure du thé, du moment où le... où le temps s'arrête, quoi, en fait. Le temps, c'est une espèce de quelque chose qui se fige, oui.
Et vous parlez d'ailleurs, je tiens, dites-vous, aux lieux et aux objets dans leur rôle esthétique. Je suis attachée au volume, aux couleurs, aux matières, aux arrangements. Ce goût de la prosodie de l'espace que j'habite est un cadeau de mon père qui avait, en tant que photographe de mode puis de décoration, une connaissance précise de la beauté légère. Donc il y a la légèreté aussi. Il y a une douce, on pourrait parler de spleen, mais il y a une.
Oui, il y a une légèreté, oui. Oui, dans le cas de mon père, oui, il était photographe de mode, puis ensuite photographe pour des magazines de décoration. Donc c'est quelqu'un qui avait le sens de ça, le sens des objets, le sens de la lumière, le sens de où est-ce qu'il faut poser l'objet pour pouvoir le photographier de manière idoine, etc. Donc c'est oui, il était très sensible à ça. Il avait un sens de ça, oui, tout à fait. De la lumière, là je dis prosodie de l'espace parce que évidemment pour moi c'est un aspect, ça se transforme en quelque chose de littéraire, mais c'est vraiment oui c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, oui l'espace dans lequel j'habite, la manière dont il est dans son poser les objets, dont l'espace s'organise. Oui.
On sent aussi dans votre manière d'écrire la phrase née du dessin, relue avec le dessin sous les yeux, subit à son tour toutes sortes de contrariétés stylistiques par filtrage, épuration, suggestion, équivoque, jusqu'au moment où la phrase respire seule et laisse le dessin définitivement de côté. C'est donc, on sent que vous êtes toujours tiraillé, dans le bon sens du terme, entre le visuel, l'espace visuel et l'espace verbal. Le choix des dessins, j'y reviens. Est-ce que pour vous, c'était vraiment aussi ce chemin-là que vous vouliez parce qu'on sent que le dessin s'infiltre dans l'écriture et l'écriture revient au dessin. Ça, c'était le projet du livre.
Oui, c'était le projet du livre. Et je pense, enfin, j'espère en tout cas, que la manière dont les dessins sont présents dans le livre fait qu'on n'a pas des illustrations. C'est-à-dire que les dessins sont pas là pour redire ce que dit le texte, hein, pour redire sous forme imagée, pas avec de la couleur puisque là ils sont en noir et blanc, mais avec des formes ou des traits ce que dit déjà le texte. Donc ils sont là simplement ces dessins pour rappeler, oui, que à un moment donné, avant qu'il y ait le texte, à proprement parler, il y a eu le dessin. Et parfois inversement, mais là évidemment c'est pas un livre de dessin, c'est un livre avec des phrases. Et les dessins qui sont là, qui sont des dessins au trait, qui sont parfois des collages, sont des dessins qui m'ont servi parfois pour des ébauches de romans que j'ai pas finis, ou pour des nouvelles, ou pour le texte autobiographique lui-même. Et en fait, d'une certaine manière, ils font partie du texte. Il y aurait eu une autre possibilité, c'était de faire quelque chose qui était en continu, texte et dessin, mais bon, c'était trop compliqué à faire. Enfin, ça faisait une maquette trop compliquée. Et donc là, le parti pris a été de reproduire les dessins. Les dessins ont leur propre page et on reprend le texte, la partie du texte qui concerne le dessin. Mais ce sont pas des illustrations. Ce sont pas des illustrations. C'est dans la mouvance du texte, dans sa continuité. C'est la coulée de la même manière, en fait. On ne doit pas regarder le dessin et dire ah ben oui, c'est de ça dont on a parlé dans le texte. Non, c'est pas.
Donc c'est une sorte de cartographie de.
C'est ça, oui. On peut dire oui, de cartographie, de cheminement.
De votre imaginaire. Ouais. Eh bien, on va faire une pause musicale. On va voir si la musique nous amène à d'autres cartographies. Sait-on jamais. Thank you. Fabrice Patot, nous sommes chez vous, toujours autour de votre livre Les Beaux Jours qui vient de paraître aux éditions Héliopole. Donc, c'est un livre mi-autobiographique, mi-fictionnel, avec, je crois, 5 nouvelles, c'est ça ?
7, je crois. Je devrais le savoir quand même. Il y en a 7, oui.
7 nouvelles et 5 textes autobiographiques. Alors, il y en a plus encore, vous voyez, j'ai pas le sens des chiffres.
Il y a une dizaine de textes autobiographiques. Et puis dans les nouvelles, il y a 7 nouvelles, oui. Ouais.
Alors, on découvre, là on est dans la partie autobiographique toujours, hein. Moi j'ai beaucoup aimé cette partie autobiographique, je trouve que je connaissais vos nouvelles, vos romans, mais je trouve qu'il y a vraiment, on a envie de lire la suite, voilà, on sent que c'est une autre voie pour vous, pour l'écriture encore.
Alors sur la partie autobiographique, il y a d'autres choses que j'ai pas inclus ici parce que c'est pas entièrement terminé, donc il y aura peut-être les beaux jours numéro 2. Ouais. c'est pas impossible, oui.
On sent que en tous les cas c'est, alors il y a les rues, la rue Vanneau, la rue Saint-Romain, puis le 38 quai d'Orléans, face d'ailleurs à la coupole, hein. Dites donc, c'est, je pense qu'on doit deviner l'Institut de France, enfin on doit deviner du 38 quai d'Orléans, à mon avis.
On est face il y a le Panthéon, en fait, c'est le Panthéon qu'on voit. Oui, c'est le Panthéon.
Tout faux. Et rue de la Bordère, donc moi je parlais tout à l'heure de cartographie, et il y a ça. Il y a aussi, c'est un temps où il y avait Paris était vu, traversé différemment. Vous parlez des traversées en voiture de votre mère, Paris. Où elle réinvente en quelque sorte. Enfin, on sent que ça fait vroom, quoi. Elle part au quart de tour, mais oui, on sent que c'est une sorte de vision de la promenade dans Paris, qui est différente. Hein. Maintenant, c'est absolument pas possible.
Oui, c'était des promenades en voiture parce qu'elle prenait sa voiture pour aller à des rendez-vous puisqu'elle elle travaillait dans l'immobilier. Donc souvent, oui, j'étais dans la voiture avec elle et puis. Soit j'allais avec elle faire visiter l'appartement et je participais en quelque sorte au rendez-vous, soit j'attendais dans la voiture avec un livre. Donc on traversait, oui.
Et le livre d'ailleurs, c'est Nabokov, Ada.
Oui, alors dans la dernière partie, la dernière section autobiographique du livre, où il est question d'Ada. Et donc cet énorme livre. De Nabokov, qu'elle prenait avec elle dans la voiture pour le lire, qu'elle lisait quand les gens étaient en retard, et elle le lisait parfois à haute voix. Donc la première lecture que j'ai lue du Ada de Nabokov, c'était sa lecture à elle. Et je pense qu'elle choisissait intentionnellement les passages un peu sulfureux. Il y en a pas mal. Dans Ada, il y a des passages comme ça, même s'il y a une histoire d'inceste. Donc, je pense qu'elle choisissait comme ça ces choses de manière intentionnelle. Et puis après, je l'ai lu évidemment, moi-même dans sa traduction française. Je trouve un des plus beaux livres de Nabokov, un des plus réussis, où il est le plus. Le plus libre, je trouve, parce que alors c'est un livre énorme qui a des parties complètement disproportionnées, mais qu'il a écrit, je crois, à la différence des autres, sans la censure de Vera Nabokov, de sa femme. Il l'a écrit quand il était en Suisse, et je crois que quand il a écrit, puisqu'il écrivait sous forme de fiche, il dictait, je crois que ça a été dicté à une secrétaire, et peut-être qu'il y a dans ce côté surdimensionné de Ada quelque chose qui a échappé à la censure de Vera, alors que Vera a beaucoup corrigé les autres, avec son accord bien sûr, beaucoup corrigé les autres livres. Mais c'est un livre très, en tout cas, quoi qu'il en soit du rôle de Vera ou pas dans cette affaire, c'est un livre où Nabokov est très très libre. On sent qu'il prend plaisir à écrire ce livre Absolument extraordinaire. Le livre est quelque chose comme ça de monstrueux, de proustien, hein, d'une certaine manière, avec beaucoup d'aparté, beaucoup de retours en arrière et qui est entièrement évidemment sur le souvenir. Hein. C'est une espèce de recherche de Ada, comme ça, de ce personnage. Oui.
En fait, c'est des extraits comme ça, impromptus de lecture, à voix haute, donc ce que vous aimez. D'ailleurs, vous relisez toujours vos textes à voix haute.
Oui, oui. Oui, oui, je lis à voix haute avant de m'arrêter. Oui.
Et toujours cette idée, on pouvait en voiture dessiner un parcours secret à l'intérieur de Paris sans laisser de traces, sans fil d'Ariane, sans excuses à fournir par plaisir. Donc cette notion de gratuité, de libre circulation des êtres, et aussi des êtres dans vos vies respectives avec votre mère, puisque il y a des arrivées, par exemple, à un moment donné, vous parlez, je crois, d'un dénommé, Jean-Charles Val, c'est ça?
Oui. Oui, qui est mon ami d'enfance, en fait, qui était le fils d'un ami d'enfance de ma mère. Oui, oui.
On voit un peu, on n'a pas cité Modiano, mais c'est vrai qu'il y a des personnages. Il y a des personnages qui arrivent, des adresses aussi, aujourd'hui oubliées. Moi, j'ai le souvenir aussi du disquaire Raoul Vidal.
Oui, oui, oui. Oui, c'était un disquaire qui était dans le quartier Saint-Germain. Et c'est un disquaire, oui, où j'allais acheter des disques là, dans un autre magasin de disques qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle l'Open Market, qui était dans les Halles, et puis chez Givaudan, qui est aussi un magasin qui a disparu, qui était boulevard Saint-Germain, plus vers la rue Saint-Guillaume. Et oui, oui, c'est des lieux qui définissait aussi, ça c'est des choses où j'allais sans ma mère, c'est plus tardif, mais c'était des endroits, oui, qui définissaient une espèce de géographie de Paris, comme ça, d'un Paris un peu interlope, on trouvait des disques qu'on trouvait pas ailleurs, on allait là, oui, il y avait une espèce de communauté comme ça,
Et ça, vous aimez bien. Vous parlez du rôle de la métonymie dans votre œuvre. J'aurais pu faire fi de la rhétorique, mais la métonymie a des pouvoirs auxquels il eût été vain de résister. Et puis, pour votre première œuvre de jeunesse, alors on sent que la lecture et l'écriture, ça va de pair toujours chez vous, Fabrice Partaut. C'est l'éloge de la torture. Vous qui écrivez lentement, vous pouvez pas mieux trouver.
Oui. Oui, c'est un texte. Un texte de vraiment de jeunesse, hein, que j'avais écrit quand j'étais au lycée, en quatrième ou en troisième. C'est un texte, un peu surréaliste, un peu en figurique comme ça, qui était écrit, je pense, sous l'influence du surréalisme, sous l'influence des dadas. C'était dans cet esprit-là, un peu comme ça.
Voilà ce que vous écrivez. Éloge de la tortue est issu, dites-vous, de l'éloge du nez surréaliste et un rien potage, puis inévitablement d'éloge des grands-mères griffonnées sur un cahier à l'heure libre qui suivait la cantine. Donc, voilà, ces premiers écrits, dont les dessins, donc ce sont comme des croquis de ce qui va arriver par la suite de votre démarche d'écrivain. Et on sent que chez vous, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la lecture et l'écriture vont de pair. Je n'ai jamais lu, sinon les tout premiers livres de ma petite enfance, sans penser un jour écrire. La lecture a très vite convoqué l'écriture et provoqué naturellement un désir d'imitation. Et que désirais-je imiter? Un style, un mouvement, une manière, une aspiration qui aurait la force de déposer le lecteur au cœur même de la fiction. Donc déposer le lecteur au cœur même de la fiction, comme une vague, vous emporter. Un livre, pour vous, doit vous emporter dans un monde intérieur, Fabrice Partaut?
Oui, je pense que si le livre n'emporte pas, il est raté. Enfin, quel que soit le sujet du livre, enfin, ça peut être des événements intérieurs, ça peut être des événements politiques, peu importe ce dont il s'agit, il faut évidemment emporter le lecteur, il faut le lecteur suivre. Je pense que là, il y a rien de pire, je trouve, hein, pour moi, que la littérature a idée du livre qu'on suit parce qu'on trouve qu'il y a une idée intéressante qui est développée. Je trouve ça en général assez plâtreux et assez ennuyeux. Donc il faut qu'on voyage. Il faut qu'on ait, on est pris par la main un petit moment, puis après on est lâché, ça doit marcher, ça doit fonctionner tout seul. Oui, oui.
Vous dites d'ailleurs avoir souvent été inspiré par la majesté des départs et des arrivées, et par un personnage qui nous a fait rêver, la baleine, Moby Dick.
Oui, dans Moby Dick, c'est... Moby Dick, on est pris dès le départ. Hein. Et la première phrase. Les premières phrases, c'est très important, aussi bien évidemment dans les nouvelles que dans les romans, mais c'est... Il y a aussi, je pense, ce qui caractérise aussi les œuvres majeures, ou en tout cas, bon, si, même si elles sont pas majeures, les œuvres qui portent et qu'on a envie de relire, c'est la première phrase. Et la première phrase de Moby Dick, évidemment, je l'ai oubliée. Mais la première phrase de La Recherche, bon, longtemps je me suis couché de bonheur, etc. Ce sont des, même la première phrase de Palude, qu'est-ce que tu fais, j'écris Palude. Bon, tout de suite on est mis, il n'y a pas de préambule, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de vestibule, on est tout de suite dedans. Après, bon, on peut être réfractaire, hein, mais si on ne l'est pas, on ne devrait pas l'être, on est inspiré tout de suite, on est parti pour une longueur indéterminée, très court si ce n'est pas lu, très long si c'est La Recherche. Mais...
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est votre conception de la lecture quand vous êtes enfant, puis adolescent. C'est-à-dire que vous ne lisez pas frénétiquement. Je ne cherchais pas à lire le plus possible. Vous lisez plutôt de manière exclusive, j'allais dire, et dans l'ordre. C'est-à-dire, il y a Proust, Gide, Cocteau, Larbaud, Genet. Je pénétrais un idiome, un parler propre. Donc, c'est cette idée de construire sa langue comme son île, comme son pays. C'est alors chaque écrivain a un idiome bien précis.
Oui, j'avais pas le jeu. Bon, il y avait les choses qu'il fallait lire pour le lycée. Ça, c'était une chose. Ça pouvait d'ailleurs croiser les livres que j'aimais lire. Mais oui, j'avais. En fait, quand je lisais ces livres, j'avais pas dans l'idée que tiens, je vais m'intéresser à Larbaud, puis tiens, je vais m'intéresser à Gide, puis tiens, je vais m'intéresser à. J'avais l'impression, en fait, de pénétrer dans des œuvres évidemment très fortes, mais aussi de laisser de côté tout un tas de choses qui m'intéressaient pas du tout, en fait, que j'ai essayé de lire et que j'ai laissé tomber très très vite parce que ça m'intéressait pas du tout et ça m'ennuyait. Donc plutôt que d'accumuler les lectures, je relisais aussi beaucoup.
Ah oui.
Je relisais beaucoup les mêmes livres.
Ce qui est rare.
Oui.
À cet âge-là, je veux dire.
J'aimais bien relire la même chose, oui.
D'où votre côté fétichiste, Fabrice Bateau, parce que vous adorez les chaussures. Vous parlez de la peau. Alors, la chaussure, vraiment, c'est l'accessoire pour vous, un des accessoires, parce qu'il y en a beaucoup hein, dans votre livre, à la fois dans les textes de fiction et dans les textes autobiographiques. Vous parlez des bottines d'air, des sandales de vent. On pense aux bottes de sept lieues, d'ailleurs. Et vous dites que le rôle de la chaussure est d'indiquer un registre, une tonalité et même un choix. Et vous évoquez la chaussure numéro 5 et la cuissarde Guerlain.
Oui, qui sont produites dans les dessins, oui, oui.
D'un côté, vous dites l'excès naïf nécessaire au dévoilement d'une difficulté, d'une aporie, d'un dilemme, de l'autre sa parodie ou son fantôme qui seuls peuvent suggérer une solution. Il y a pas, si, il y a le parfum aussi qui est important.
Oui, il y a en général beaucoup d'éléments sensuels ou sensoriels qui entrent en ligne de compte aussi bien dans le texte autobiographique que dans les nouvelles. Il y a dans une des nouvelles une histoire d'odeur comme ça qui revient, quelqu'un qui repérait l'odeur. Et oui, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup en fait dans l'écriture. En fait, c'est d'arriver à saisir comme ça la teneur ou l'épaisseur ou la texture. Oui, d'une odeur. C'est très compliqué, en fait, à saisir exactement décrire une odeur, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Décrire une matière, décrire. Donc, tout ce qui est de l'ordre de. Oui, du toucher, de la sensation olfactive, je pense que c'est plus délicat, où il y a peut-être moins de références littéraires, ou moins de. Il y a un lexique peut-être plus compliqué à maîtriser que ce qui est du domaine de la vue ou de l'ouïe. C'est très compliqué de décrire la sensation du toucher, les sensations olfactives, tout ça. Mmh. Et c'est des choses qui sont très importantes qui sont très importantes dans le souvenir. Dans le souvenir et la manière dont on les décrit ou dont on essaye de les décrire. Ce qui est très compliqué à chaque fois, c'est d'essayer de faire une différence entre les propriétés de l'objet que l'on respire, que l'on sent ou que l'on touche, et puis ce qui est du domaine purement de la sensation, ce qui est, si j'ose dire, dans le nez ou dans les doigts plutôt que dans l'objet qu'on touche ou ou de la fleur qu'on respire ou de la peau qu'on respire. C'est quelque chose de compliqué et qui donne, je trouve, d'un intéressant pour l'écriture. Il y a une espèce de défi.
Alors, il y a aussi la map monde, souvent, qui est présente à la fois, d'ailleurs. Ça, c'est un lien entre un texte autobiographique et une nouvelle, où un personnage, je crois, écrit face à une map monde, et en train de penser à sa correspondante, je pense. Et cette map monde, c'est vraiment la cartographie aussi de son imaginaire qui se déploie. Vous parlez aussi du papier pelure, très fin. Enfin, il y a du froissement, l'idée du froissement.
Oui, c'est aussi un... il est question d'une lettre d'amour qui est conservée par le narrateur et qui est écrite sur un papier qu'on appelait, il me semble à l'époque, le papier pelure, qui était le papier des doubles qu'on utilisait pour les doubles de lettres quand il y avait encore les machines à écrire mécaniques ou électriques. Et effectivement, la map monde ici, c'est dans les deux cas, dans le texte autobiographique et dans le texte faussement fictionnel qui se trouve en fait dans la partie nouvelle, le narrateur, oui, est face à une map monde qui est éclairée de l'intérieur et qui est orientée, suivant l'humeur, comme ça, vers l'Afrique dans le premier texte et vers les États-Unis dans le second texte. Et oui, c'est une manière, oui, d'avoir le monde posé en modèle réduit, comme ça.
À portée de vue. Il y a aussi cette notion des gens du dehors. J'ai toujours lu et écrit en faisant comme s'il n'y avait rien d'autre que la lecture ou l'écriture en cours. J'ai toujours travaillé, ça c'est très intéressant, j'ai toujours travaillé derrière des remparts. Et les remparts, on pense que votre fascination pour les... Parce que chez vous, l'habit fait bel et bien le moine. L'habit, c'est très important. Il y a d'un côté, vous dites, d'un côté du mur de bibliothèque, je lis, de l'autre, je m'habille. Les deux penchants sont concomitants, amis, complices. Alors, ce goût pour la tenue vestimentaire, est-ce que c'est pas aussi rentré dans la peau des personnages ? D'un personnage ?
Oui, s'habiller, de toute façon, il y a toujours un côté... Enfin, on peut le concevoir comme ça, pas forcément, mais on peut le concevoir, oui, comme une espèce de déguisement, oui, comme quelque chose qu'on on veut créer un certain effet vestimentaire. Et dans l'histoire, dans la partie autobiographique, en fait, la chambre dans laquelle j'arrive quand on arrive dans le Saint-Louis a une alcôve. Dans laquelle il y a mon lit, et puis en fait on ferme cette alcôve par une bibliothèque, donc là j'ai toute la bibliothèque où je peux lire, on me met tous ces livres, si j'ose dire, sous le nez, et puis dans l'ancienne alcôve en fait devient une penderie, et donc là effectivement il y a tout un jeu avec lui avec l'habillement, les chaussures, les vêtements en général. Oui,
que vous avez gardé, mais votre père était photographe, alors peut-être ce
goût... Oui, peut-être que ça joue, oui, oui.
Parce que on sent que vous endossez un habit, enfin, j'imagine, le lecteur imagine, vous lisez, vous êtes un jeune lecteur, et en même temps, vous testez des différentes tenues, etc. Donc c'est comme dans un conte de fées, on parlait de la chaussure, mais c'est la pantoufle de verre, enfin, il y a un côté... je passe de l'autre côté du miroir aussi.
Oui, il y a un côté jeu. Oui, un côté de jeu avec les apparences. Oui, tout à fait. Oui.
Et puis, j'aimerais qu'on parle d'Edgar Poe, parce que ça, vous en parlez à un moment donné. On sent que c'est une lecture qui a compté pour vous, Fabrice Patou.
Oui, je l'ai beaucoup lu dans la traduction Baudelaire et dans dans l'original anglais, qui est magnifique. On dit toujours Pau, c'est bien parce que c'est bien parce que Baudelaire l'a formidablement traduit, ce qui est vrai. Mais c'est aussi un anglais. L'original est magnifique. Oui, j'aime beaucoup Pau. Oui, je trouve que c'est.
Avec le côté aussi de la cruauté qui est présente dans vos nouvelles. Hein. Ce ne sont pas des nouvelles bisounours. Hein, du
tout. Non, elles sont. Oui, elles racontent des histoires, mais souvent assez. Assez cruel, oui, parfois même un peu morbide. En tout cas cruel, oui. En tout cas cruel. La cruauté joue un rôle, oui.
Les personnages, alors bon, quand vous allez à l'école, il y a un monsieur, je crois, un professeur qui s'appelle Sébastianov.
Sébastianov. C'est un professeur de français qu'on avait en classe de 3e et qui était un professeur assez curieux, en fait. On n'a pas fait du tout le programme. On n'a pas fait du tout le programme, enfin un petit peu, parce qu'on était quand même obligé de suivre les directives. Mais il nous faisait lire du Barthes. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui nous passaient relativement au-dessus de la tête. Mais en tout cas, il nous faisait lire des choses, je pense, beaucoup trop compliquées pour nous, dont on ne pouvait pas saisir. Tous les attendus. Et surtout, ce qui était curieux, je dirais, c'était que c'était un professeur de lettres qui, à la différence des professeurs de lettres qu'on avait eu avant, en 6e, 5e et 4e, on parlait assez peu de littérature directement, en fait. On lisait des textes qui parlaient de littérature plutôt que de lire les auteurs eux-mêmes. Et ça, je pense que ça a été important pour moi, en tout cas, mais même pas que pour moi, pour certains d'entre nous dans la classe, parce que ça avait un peu l'aspect d'un mini cours de philo, un petit peu. C'est théorique, c'était abstrait. On lisait pas des romans, mais des textes qui parlaient du roman. On lisait pas du théâtre, mais deux textes qui parlaient du théâtre, etc. Donc, il y avait un côté, comment dire, qui consistait en fait à regarder la littérature un peu de loin ou d'au-dessus et de la prendre comme ça pour objet. Ce qu'on n'avait pas fait avant, parce qu'en fait, quand on était dans un cours de littérature avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On lisait l'œuvre, en tout cas des extraits. Il y avait un aspect biographique. On plaçait l'œuvre dans son contexte. Donc on disait voilà, qu'avait fait Ronsard, ce que c'était que la Pléiade. On regardait, je sais pas, Agrippa d'Aubigné. Donc, fallait savoir que bon, qu'il était protestant, c'était bon. Pourquoi c'était quoi la critique de l'Eucharistie. Enfin, bon, il y avait tout un tas de choses qui étaient éventuellement extérieures au texte lui-même et qui étaient là vraiment pour expliquer des textes de manière extrêmement précise. Tandis que là, on allait vers des choses extrêmement générales et parfois extrêmement abstraite, et ça nous a donné, enfin ça m'a donné en tout cas, oui, un goût pour ces choses-là. Et c'était un professeur, oui, assez. Par exemple, on avait fait quelque chose qui avait vraiment pas de place a priori dans un cours de littérature, dans un cours de français, comme on disait, de troisième. On avait fait du Sartre, par exemple, les réflexions sur la question juive de Sartre. Bon, il n'est pas question de littérature, mais il nous donnait comme ça des aperçus sur des questions dont on allait parler après de manière très directe quand on prendrait un cours de philo de terminale. Mais c'était un prof, oui, assez étonnant.
Est-ce que c'est justement le fait de la théorie avant la pratique, ça déculpe pas l'envie d'écrire et l'envie d'aller dans la fiction? Vous dites, c'est lui qui, d'ailleurs, qui vous incite à des lectures non littéraires comme la grammaire transformationnelle.
Il nous parlait de Chomsky, de MGF, enfin de choses, je pense qu'on avait, on comprenait assez, je crois, assez mal. Ce dont il parlait, mais on regardait, oui, le texte, en fait, le texte littéraire comme si c'était comme on aurait regardé un article de journal ou une recette de cuisine, comme si on regardait la structure du texte, le titre, l'alinéa, les morphèmes. Enfin, il y avait toutes ces notions comme ça, ces notions de linguistique qui nous présentaient. C'était, oui, c'est, C'était pas un cours de littérature, c'est vrai. Du tout.
Et d'ailleurs, vous évoquez cette amitié du coutumier et du bizarre. Ça, j'ai bien aimé. Ce côté bizarre. Il y a plein de personnages bizarres qui traversent d'ailleurs votre œuvre, Fabrice Pateau. On va faire une petite pause musicale et puis on reprend notre conversation.
She makes a face, you just have to laugh, and you feel like such a know-it-all, when you only want just a tiny girl, and you hope she'll sing. So you turn around toward the tiny girls, who have got no tricks, who have got no past. Yeah, that's what you think, and you hope she'll sing. But she sings of greed like a young banshee, and she wants for this, and she wants for that. Ah, what did you think?
Fabrice Pateau, nous sommes toujours autour de votre livre Les Beaux Jours qui vient de paraître aux éditions Héliopole. Alors, on a fait une pause musicale. Côté musique, d'ailleurs, à un moment donné, vous en parlez. Vous parlez de Stravinsky, je crois, et de Bartok.
Oui. Oui, c'est quelque chose que. C'est une musique que j'écoutais beaucoup à l'époque. Oui, mais quand j'étais au lycée avec un camarade de lycée que je vois toujours, qui s'appelle Marc Nicole, et on écoutait, oui, cette musique comme ça, très très abrupte, très dissonante, très violente. Oui, ça nous plaisait beaucoup. Mmh. Oui,
c'était il y a des ruptures, il y a le sens de la rupture aussi dans l'arrivée de certains personnages impromptus, les non-dits dans certains de vos textes,
dans les nouvelles.
Ouais.
Oui, dans les nouvelles il y a il y a des interventions inopinées de personnages, par exemple dans la première nouvelle qui se passe à Venise, il y a l'intervention d'une femme qui se retrouve seule dans un hôtel, son mari n'est pas là, et donc il y a l'intervention inopinée du concierge. C'est peut-être un exemple.
C'est cette nouvelle qui s'appelle La Morsure. Alors La Morsure, moi j'ai pensé, c'est pas anodin quand même. J'ai pensé à une technique de gravure d'ailleurs, Voilà, j'ai pensé. Et d'ailleurs, c'est un mot, la morsure, que vous utilisez dans un autre texte qui s'appelle Conversation avec la cruauté, je crois. L'île Saint-Louis, dites-vous, avec tout autour, avec sur ses flancs et sous ses ponts, les eaux souvent agitées, tantôt couleur de merde, tantôt couleur d'huître, s'est prêtée sur ce chapitre à toutes sortes d'expérimentations in vivo. Ce sont elles qui font de la chair une matière de découpe, de démembrement et de morsure. Donc, la morsure, c'est l'érosion du temps aussi.
Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Là, dans la nouvelle qui, dans la première nouvelle, en fait, qui s'appelle Morsure, il est question d'une vraie morsure que s'inflige cette femme elle-même et qui fait appel à une morsure plus ancienne. Dans une version précédente du livre, mais c'est quelque chose qu'on a gommé avec Zoé Leroy, avec l'éditrice, il y avait un rapport beaucoup plus direct qui était tissé en fait entre la partie autobiographique que vous venez de citer et cette nouvelle.
Ah, alors voilà.
Donc c'est pas pour rien que vous le voilà. Mais et en fait on l'a gommé, et je pense que c'est peut-être mieux dans le sens où en fait c'est au lecteur de découvrir lui-même. En fait le lecteur qui commence par la, je pense qu'il vaut mieux commencer par la partie autobiographique, et on retrouve dans les nouvelles des éléments qui sont dans l'autobiographique. Sauf que c'est pas signalé. Il n'y a pas de post-it qui vous dit hop là voilà. Non. Donc c'est aussi une manière de tisser un pont, évidemment, entre la partie autobiographique et la partie proprement fictionnelle. En fait, à la limite, j'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire présenter des parties, la partie fictionnelle comme la traiter comme une autobiographie, inversement. Mais bon. Ça aurait fait un autre livre. Mais il y a des ponts entre les deux, oui.
Il y a des ponts, comme la fameuse île Saint-Louis.
Oui, il y a des ponts.
Et il y a des détails aussi qui changent tout. Florence aimait ce confort offert par de rares moments de solitude. Imaginez Pierre avec un visage moins régulier, des doigts plus souples, un sourire plus vif, et puis s'amuser ensuite devant lui, sans rien dire, de ces différences négligeables. Et à chaque fois, d'ailleurs, dans vos nouvelles, comme dans vos textes autobiographiques, on sent que vous abordez toujours l'envers du décor, l'envers de la réalité. Un peu. Vous soulevez le voile.
Oui, oui. Oui, oui. Dans chaque nouvelle, il y a effectivement des choses, des événements relativement ordinaires de la vie quotidienne. Cette femme qui se retrouve seule dans un hôtel. Et effectivement, il y a un moment de, dérapage, oui. Il y a un moment où tout d'un coup, effectivement, la réalité se fendit comme ça. Il y a une espèce d'espace qui se dessine ou d'arrière-fond, et on pénètre dedans et on découvre effectivement tout à fait autre chose. Éventuellement, le contraire de ce qu'on avait subodoré au départ. Mais...
Et aussi, vous avez une fascination pour, mais ça c'est très littéraire, pour les hôtels. Est-ce que vous, les hôtels, est-ce que vous écrivez dans les chambres d'hôtel? Je sais que vous voyagez de temps à autre. Est-ce que vous êtes sensible à l'espace de la chambre d'hôtel, puisqu'on parlait des chambres tout à l'heure, ou de l'hôtel? Parce que l'hôtel, c'est un cadre, il y a des vieux hôtels comme des vieux cinémas, je sais pas, c'est toute une époque, un hôtel.
Ah oui, tout à fait. Non. J'aime beaucoup les hôtels. Sauf que la chambre d'hôtel, oui, c'est un lieu public qu'on rend privé pour un temps normalement relativement court, à moins de se mettre à vivre à l'hôtel. Mais oui, j'aime bien la chambre d'hôtel.
Vous pouvez écrire dans un hôtel?
Oui, je peux écrire dans une chambre d'hôtel. Oui, tout à fait.
Vous écrivez comment? Sur des petits carnets, l'ordinateur?
Sur des petits carnets, où je dessine sur des petits carnets, puis j'écris à l'ordinateur.
Alors il y a l'hôtel, je pense à Un été français, hein, c'est une autre nouvelle, donc il y a une correspondance. Il y a la correspondance qui est présente aussi, cette idée un peu de lettre dernière, de lettre bouteille à la mer. Elle répondait à une lettre beaucoup plus courte que j'avais écrite en hâte sous l'effet d'une congestion depuis l'hôtel George Washington à la lumière du map monde en vert opaque éclairé de l'intérieur. Cette conviction si forte que la longue lettre sur papier pelure avait existé à Manhattan, un mois inachevé et fait sortir un mois différent de sa chrysalide devant le miroir d'une chambre baignée du dernier éclat de l'été. Il y a l'écrit, le chemin de l'écrit et le lieu où ça va se, où la lecture va arriver.
Oui, c'est un texte en fait, oui, où le narrateur reçoit et conserve une lettre de déclaration amoureuse en fait extrêmement longue, et où lui-même a écrit une lettre. La lettre qu'il reçoit est une réponse à cette lettre perdue, donc il ne se souvient plus du contenu de cette lettre, en fait. Donc la seule chose qui reste, c'est la très longue réponse.
Oui, et puis on sent que c'est, comment dire, voilà, il y a tout le, là c'est le côté scénario, il y a tout le contexte entre l'événement et les circonstances.
Oui, c'est-à-dire l'événement lui-même en fait n'a pas de contour temporel défini. L'événement lui-même est quelque chose d'extrêmement élastique qui s'étale en fait sur un nombre considérable d'années. Donc il n'y a pas vraiment de début et de fin de l'événement. L'événement est extrêmement souple, il est lié en quelque sorte, si je veux dire, par capillarité à d'autres événements, il en intègre d'autres, il se transforme.
Et ça dure tout. Alors, vous parlez de l'esprit des choses. Entre la chose et son souvenir s'interposent toutes sortes d'hésitations, de corrections et de calculs qui veulent tantôt garder le sentiment amoureux pur et sans tache, tantôt l'abîmer par dépit. Donc c'est toujours en fait une relecture de sa vie, de votre vie aussi, on sent. Par des scénettes qui pourraient être des tableaux,
oui,
un peu à la Hopper.
Oui, qui pourraient être des tableaux et où effectivement la limite entre ce qui est vraiment passé, ce dont on se souvient, ce dont on croit se souvenir, est en fait extrêmement poreuse. Fait que l'événement lui-même en fait est une construction extrêmement complexe d'événements dont des personnes extérieures pourraient témoigner, mais finalement c'est la petite partie immergée. Après évidemment il y a toute la partie peut-être la partie qu'on voit de l'extérieur, mais après évidemment il y a toute la partie sous-jacente, la partie interne qui se dévoile. Oui, qui est feuilleté un peu comme un gâteau. Oui.
Ouais. Vous qui aimez les gâteaux, les salons de thé.
C'est un gâteau, oui. Ouais.
Dans Dernière précaution, par exemple, c'est une autre nouvelle, on peut lire « Coudert avait souligné certains mots, les plus beaux presse-papier, trois cristalleries et leurs noms, Clichy, Baccarat, Saint-Louis, avec deux traits pour Clichy et trois pages plus loin, 5 000 $, il avait noté dans la marge, en face du prix, à multiplier au moins par 7, donc 30 égale 35 600 000 $, la date de fabrication du presse-papier dite « La Rose Blanche ». 1850, était entouré d'un cercle et Coudert avait griffonné sur la même ligne. Dans la marge, inflation plus moins 3,40% par an. Drôle de manière de lire Capote. Donc, il s'agit d'ailleurs du livre Prière exaucée de Truman Capote. Alors, c'est marrant parce que, voilà, vous jouez aussi, alors, on parlait du dessin, l'attitude de vos personnages avec des petits gestes, des marginalia, des gribouillis, des manies, des rituels.
Oui, tout à fait. Donc l'histoire de cette nouvelle, en fait, donc de Dernière précaution, c'est l'histoire d'un homme qui en tue un autre pour prendre sa place. Donc c'est une commande. Et donc il va assumer l'identité de cet homme. Il a un faux passeport, des faux papiers. Donc il pénètre chez lui sous un prétexte fallacieux. Il le tue et il doit prendre l'identité de cet homme. Donc il a, on lui a donné tout un dossier. Donc il se pénètre de la vie de cet homme qu'il n'a jamais rencontré, sauf le jour où il va chez lui pour le tuer. Et donc il connaît tout à peu près de lui. Il doit récupérer ses numéros de compte en banque, etc. Et puis partir sous cette fausse identité, Trinité et Tobago, pour des histoires d'argent, bon, peu importe le détail. Et parmi les choses qu'il a apprise, donc il doit s'habiller comme lui, il récupère ses vêtements, il récupère ses chaussures, il donne rendez-vous à une prostituée que cet homme payait très cher pour des séances, enfin bon bref, je ne donne pas le détail. Et parmi les livres que cet homme lisait, il y a Prière exaucée de Truman Capote, ce qui n'est pas du tout prévu, puisque c'est un homme qui lit des livres tout à fait différents, dont le narrateur a dû s'imprégner, qui sont extrêmement ennuyeux, mais dont il a dû s'imprégner pour rentrer dans la peau du personnage. Et il note ces petites choses dans Prière exaucée de Truman Capote qui n'ont pas un... qui n'ont pas vraiment d'intérêt en soi, mais qui l'intéressent, où effectivement il est question de ces objets en baccarat, etc., qui coûtent extrêmement cher. Il fait un calcul de combien ils coûteraient, en fait, au vu de l'inflation, etc., qui est un détail qu'en fait qu'il invente lui-même et qui rajoute.
Voilà, ouais. Il y a toujours des détails, hein. Détails vestimentaires, les chapeaux ont beaucoup d'importance, la plume. La couleur marron glacé, dont je crois que c'est une nouvelle qui s'appelle Je m'appelle Reviens. Françoise Didou s'habillait en marron glacé parce que personne pensait-elle n'aimer le marron glacé, ce qui est faux. Voilà, il y a toujours là aussi la petite formule, l'humour, il est au détour d'une phrase chez vous, Fabrice Patou.
Oui, alors l'histoire du chapeau, en fait, qui s'appelle Je m'appelle Reviens. Donc c'est l'histoire d'une mère qui disparaît, qui laisse son enfant à son frère, et cette mère effectivement a une passion pour les chapeaux marron glacé avec une plume, et donc on revient sur comment elle achetait ses chapeaux, où elle achetait ses chapeaux, pourquoi elle les achetait, elle avait un amant chapelier, donc il y a tout un passé comme ça qui se reconstruit, et c'est celle-là où il est écrit sur un mode très ironique, oui, ouais.
Et puis alors,
très loufoque.
Oui, très loufoque. Alors, l'escalier, on parle de l'escalier Art déco qui a son rôle à jouer parce que épuré sans rambarde. Et puis aussi, ce qui était très drôle,
oui,
à moment.
Descend les escaliers pour aller à la chambre nuptiale.
Voilà. Et dans cette chambre nuptiale, il y a un fameux waterbed. 11 ans de waterbed, 11 ans d'escalier Art déco et de chapelier l'après-midi. Stop. Ça, j'ai bien aimé. C'est côté un peu retournement de situation, voire théâtre. D'ailleurs, vous aimez beaucoup le théâtre, hein.
Le théâtre, au bout d'un moment, elle en a marre et elle s'en va. Donc, elle confie son fils à son frère et elle s'en va et elle disparaît pendant 10 ans. Et elle revient. D'où le titre, Je m'appelle Reviens. Elle revient à l'improviste. Avec le même chapeau.
Vous aimez beaucoup le théâtre. Comment vous viennent vos idées de nouvelles? C'est pas des idées, c'est des intuitions. Comment se fabriquent vos textes, Fabrice Patou?
Les nouvelles, je dirais plutôt par la fin, en général. C'est-à-dire, je pense à une chute. J'ai envie d'arriver à une certaine phrase, à une certaine chute. Et je procède à rebours. En fait, je me dis comment est-ce qu'on arrive à cette comment il faut procéder pour arriver à cette chute.
Est-ce que vous retravaillez beaucoup vos textes ou?
Ah oui, je suis très lent, extrêmement lent. Oui, dans ce recueil de textes là, dans ces nouvelles, elles ont été publiées sous des formes assez différentes en fait dans la revue suisse. Le Passe-Muraille, qui est dirigé par Jean-Louis Cuffert, que je remercie au passage d'avoir... Je remercie bien sûr d'avoir accepté ces textes et de les avoir publiés dans sa revue. Ils ont été publiés il y a plusieurs années, mais il y en a vraiment qui sont très très anciens, que j'ai laissé tomber complètement et que j'ai tout un stock comme ça. Puis je les reprends, je les retransforme, donc j'écris assez lentement. Oui.
Vous pouvez. Est-ce que selon vous, un romancier voit ce que d'autres ne voient pas?
Alors là,
est-ce que le roman vous ouvre des portes? Parce que quand même, c'est romanesque, hein, toujours.
Oui, c'est romanesque. Après, je dirais pas que les nouvelles sont des romans miniatures, ni les romans des nouvelles auxquelles on a fait subir un régime de gonflette. Mais dans le roman, c'est différent. Dans le roman, je dirais, il y a une, dans une nouvelle, quand même, il y a une chute qui vient de par le fait que la nouvelle est courte, qui vient pas très longtemps après le début. Donc il y a un temps de lecture évidemment qui par définition est tout à fait différent. Et dans le roman, il y a des, je dirais, il y a plus de choses laissées dans l'ombre. Curieusement, parce qu'évidemment c'est plus développé, mais plus c'est développé, plus on laisse les choses dans l'ombre. Car plus on dit, plus on pourrait dire.
Est-ce que le format court vous convient mieux que le format long ?
Non, pas forcément, parce que j'ai écrit des romans assez longs. Reconquête, par exemple, est un roman très long. Eleusis, le premier roman aussi, est un roman très long. Mais je pense que le temps qu'on prend avec le roman, le temps de la lecture, évidemment, est beaucoup plus long. Mais surtout, il est pas, il se dessine pas de la même manière. Dans un roman, il y a des apartés, il y a des pistes, il y a des choses qu'on laisse de côté. Je dirais moins dans une nouvelle, il me semble, moins dans une nouvelle. Une nouvelle a quelque chose de...
Plus ramassé.
De ramassé, de fermé sur soi, et qui chute. Puis après, il y a les œuvres hybrides dont on ne sait pas dire si... elles sont des romans, des confessions, des choses tout à fait inclassables. La recherche, c'est pas un roman. C'est pas une chronique non plus, c'est pas un roman, c'est
une immersion.
Oui, absolument, c'est autobiographique, mais c'est intéressant la recherche par exemple, c'est pour cette raison-là parce que il y a des choses dans la vie de Proust qui disparaissent complètement. Par exemple, son frère disparaît. Il n'y en a pas question dans la recherche. Alors que c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans sa vie. Donc il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui sont gonflées. Il y a des micro-événements. Et évidemment, il y a l'épisode célèbre de la Madeleine, mais il y en a plein d'autres. Sur les toilettes, sur les odeurs, sur les manières dont les gens bougent, comme ça, qui donne lieu à des digressions extrêmement longues, qui elles-mêmes contiennent des digressions, ce qui fait que par moments, quand on lit l'œuvre au départ, on ne comprend pas où ça va. On se dit, mais de quoi il parle? Il parle de Combray, il parle de son souvenir, voilà, tout d'un coup, on passe à des digressions sur les noms de pays, puis après... on a une espèce d'effet de loupe sur Swann. Bon, Swann, puis tout d'un coup, ça prend des proportions. Ce qui fait qu'on met beaucoup de temps, en fait, à se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Il y a vraiment quelque chose qui est d'une ampleur anormale au point de vue de... Bon, et c'est pas romanesque, il s'agit pas d'un roman. Mais dans les gros romans, je sais pas, les gros romans de Stendhal ou les gros romans de Flaubert ou... Il y a aussi cette idée comme ça de digression. On ne sait pas où ça va s'arrêter. La Chartreuse de Parme, c'est plein de digressions. On dit, mais pourquoi on passe 5 pages? Donc c'est ça. Puis après, bon, le roman, il y a les romans des romans au contraire qui sont extrêmement fermés sur soi et concis. Les romans de Modiano, ils sont assez remarquables pour ça.
Oui, vous aimez Modiano ?
Pas tout, mais oui, j'aime bien Modiano. C'est une très belle langue. Et puis j'aime bien. On a l'impression qu'il écrit sans cesse le même roman. J'aime bien ça. Non, on a l'impression qu'il écrit toujours la même chose. C'est pas une critique. Je trouve que c'est très bien. Au contraire, il y a une chose qui est sans cesse remise sur le tapis, retravaillée sous des angles différents, mais en fait, on a l'impression que Modiano écrit un seul roman.
Ouais. Mais est-ce que c'est le fait de creuser son imaginaire, de travailler sur sa propre mémoire d'écriture?
Oui, je pense que je sais pas, il faudrait lui demander, mais je
non, pense mais pour
que...
vous aussi.
Oui, je pense que c'est l'idée qu'il y a un nombre de thèmes. Limité, qu'on est toujours en train de réécrire la même chose et de réarranger. Ça se voit pas forcément, on s'en rend pas compte forcément soi-même quand on l'écrit, mais ça participe de cette idée-là. Oui. Oui.
Comment construisez-vous vos personnages ? Est-ce que ce sont des personnages que vous avez croisés, qui alimentent vos souvenirs ? Comment se dessine un personnage, Maurice Pateau ?
Non, je dirais vraiment avec les mots. Hein. C'est mon matériau, c'est le mot, donc. Après, bon, oui, forcément, on rencontre des gens, il y a des choses, des éléments qu'on utilise, mais non, parfois, en commençant une nouvelle, j'ai pas trop, j'ai une idée assez floue, j'ai la fin, et puis j'ai envie d'utiliser certains mots, certaines tournures de phrases, et c'est ça qui donne, le mouvement.
Ouais. Votre définition du style?
Ah, là, la définition du style. Non, le style, je pense que c'est ce qui doit emporter le lecteur. Il y a des styles, évidemment. Bon, il y a des styles très différents. Je pense que ce qui fait la force du style, c'est qu'on reconnaît l'écrivain, son style. Il y a, si on lit un texte d'un auteur et qu'on ne connaît pas cet auteur et qu'on est sensible au style, on doit reconnaître que ça. C'est comme la musique, vous écoutez, sans être extrêmement mélomane ou extrêmement érudit en matière de musique. C'est comme si vous écoutez de la musique, un morceau que vous connaissez pas et vous dites, ben ça, oui, ça, c'est du Beethoven. Ou alors vraiment quelqu'un qui a beaucoup écouté Beethoven, ou, etc. Donc le style, c'est la marque de fabrique, je dirais. C'est ça qui distingue l'auteur. C'est ça qui fait qu'il est différent d'un autre.
D'où vous viennent vos idées de livres? Je crois que je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, mais comment se dessine un livre?
Alors si c'est un roman, en général, je commence par le début, je finis par la fin. Ouais. C'est assez linéaire et ça se construit, je sais pas, ça vient assez naturellement. Je me dirais que vraiment c'est la matière des mots qui donne le mouvement.
Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes ritualisé dans vos, vous avez des rituels d'écriture, puisque vos personnages, eux, sont très ritualisés par contre. Est-ce que vous êtes un homme à rituel d'écriture?
Oui, j'écris tous les jours, un peu à heure fixe, de manière. oui.
Vos projets, Fabrice Patou, quels sont vos projets actuels?
Alors, mes projets actuels, en ce moment, je travaille avec une troupe de théâtre sur l'adaptation théâtrale d'un roman qui s'appelle En haut des marches, qui a été publié aux éditions du Seuil en 2007. Et on a commencé à travailler avec les acteurs, donc qui sont Diego Collin et Alice Raimi, avec une mise en scène d'Ulysse Robin. Et en fait, on a vraiment conçu ça comme un travail tout à fait collectif. Donc c'est pas moi qui, dans mon coin, fais une adaptation théâtrale du roman. On a commencé par des lectures scénographiées. Et puis là, on passe à une version théâtrale avec texte super cœur. Voilà. Donc on travaille là-dessus en ce moment. Et c'est un beau projet.
Ouais, c'est un beau projet. Je crois que les Beaux Jours ont été sélectionnés pour un prix, non?
Les Beaux Jours sont dans la liste du prix Bocasse de la nouvelle. Voilà. Donc, on en saura plus l'année prochaine.
Il y a un roman en préparation. Je sais que vous avez toujours peut-être plusieurs manuscrits.
Oui, il y a plusieurs manuscrits qui sont en cours, qui sont en gestation et qui sont dans le tiroir.
Oui. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Patou.
Merci beaucoup.
Pour ce voyage dans le temps qui s'appelle Les Beaux Jours. C'est un recueil à la fois de nouvelles et de textes courts, autobiographiques. Ça vient de paraître chez Léopold. Et puis, si on veut vous lire, eh bien, je dis toujours au lecteur de constituer sa petite bibliothèque. Et il y a quand même, vous avez quoi, 30, non, pas 30 encore, mais une bonne quinzaine d'ouvrages, je pense, non, de publier, Fabrice.
Oui, il y a des romans, il y a des recueils de nouvelles, il y a des livres qui ont été, des beaux livres aussi illustrés par un peintre qui s'appelle Gilles Guèze, et qui ont été publiés sous forme de beaux livres à tirage limité. Donc, oui, il y a des choses.
Voilà, des beaux voyages à faire. Merci à vous et à nos auditeurs. Merci.
Most people who hear music like this in smoky places, they have cancer and heart trouble in empty faces. They all live in 1987 in glass cages. Someone unlocked the key and set them free.
to say I was quite the dandy. But nothing's handy but all these dirty years. Giraffes became extinct in the summer. Baseball games, they stopped them in the spring. And now the latest. It seems that a 10,000-pound chihuahua has been bred to be a war dog for the government of Albania. Washington, D.C., the First Lady has announced that a 12-year-old picture of Isaac Hayes will be on the Christmas tree in the lobby of the White House this Christmas. Paris, France, it seems that the five-wheeled car will have to be shot in the head because it's now considered too sexual for the motorways of southern France. And last but not least, a note from Southern California. Now that Disneyland is in the latest red light district of Orange County, the sheriff of Orange County has announced that chocolate bars and soda pop do, in fact, hold the key for immortality, not skin cancer, as previously announced.